Ce soir, il s'agit du réel et son double de Clément Rosset. Et pour voir de ce dont il s'agit et que pour que vous soyez tout de suite plongé en fait dans cet auteur et constater combien il est singulier, attachant et passionnant, je vais vous lire la première page, la toute première page de l'avant-propos. Rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserve l'impérieuse prérogative du réel. Cette faculté se trouve si souvent prise en défaut qu'il semble raisonnable d'imaginer qu'elle n'implique pas la reconnaissance d'un droit imprescriptible, celui du réel à être perçu, mais figure plutôt une sorte de tolérance conditionnelle et provisoire. Tolérance que chacun peut suspendre à son gré, sitôt que les circonstances l'exigent. Un peu comme les douanes, qui peuvent décider du jour au lendemain que la bouteille d'alcool ou les 10 paquets de cigarettes, tolérés jusqu'alors, ne passeront plus. Si les voyageurs abusent de la complaisance des douanes, celles-ci font montre de fermeté et annulent tout droit de passage. De même, le réel n'est admis que sous certaines conditions et seulement jusqu'à un certain point. S'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l'abri de tout spectacle indésirable. Quant au réel, s'il insiste et tient absolument à être perçu, il pourra toujours aller se faire voir ailleurs. Voilà. Alors, Clément Rosset, c'est un philosophe qui m'est cher. Vous l'avez peut-être vu, il était venu une fois au Salon du Livre avec Antoven. Donc, j'ai hésité entre plusieurs livres que j'ai amenés. Donc, j'ai choisi Le réel et son double, qui est quand même le fondement de sa pensée. Alors, quelques mots sur l'auteur brièvement. Il est né en 1939. Il est mort récemment, c'était au mois de mars 2018. Parcours très classique, hein, normal sup, agrégation de philo. Il a fait un mémoire de maîtrise avec Jean Kelevitch sur Schopenhauer. Et il a eu une activité d'enseignant à l'université quasiment toute sa carrière à Nice, en fait, jusqu'en 1998. C'est un passionné de musique. Alors, la musique est très importante pour lui. Et on peut dire qu'il a deux grands thèmes de réflexion. Le premier, c'est sur le réel, donc c'est celui qui va nous occuper ce soir, l'incapacité à accepter le réel tel qu'il est. Et ce livre, Le réel et son double, pose les fondements en fait, de sa pensée sur le réel. Et le deuxième thème, c'est la possibilité de la joie dans un monde tragique, dont le grand livre est La force majeure, que j'ai amené également. Il a deux grandes influences, Nietzsche et Spinoza. Donc c'est vous dire si c'est quelqu'un de bien. Il a écrit une trentaine d'ouvrages. Il a publié très tôt son premier livre, La philosophie tragique, à 19 ans, alors qu'il était en Cagne à Louis le Grand. Alors je crois qu'il raconte, je ne sais pas si c'est après, si c'est l'oral de Normal Sup ou... ça doit être l'oral de Normal Sup. Il disait qu'à l'occasion de l'apparition de son livre, il avait fait la une d'un magazine littéraire le jour où il passait l'oral. Alors il ne savait pas trop si ça allait le servir ou le desservir. Bon, on peut trouver de nombreux podcasts sur Internet. Hein, il est passé à de nombreuses émissions sur France Culture, notamment avec Antoven. Alors, il y a même un site officiel, clementrosset.com. Dans ses livres, il fait souvent allusion, il utilise souvent des textes, des concepts ou des références qui sont hors du corpus traditionnel de la philosophie. Par exemple, la BD, Tintin, il aime beaucoup Tintin. Il parle du cinéma, il parle de littérature. Et dans le réel et son double également, en fait, il y a pas mal de liens donc avec l'extérieur de ce qui est purement philosophique. Et on va en voir deux ce soir. C'est Boubou Roche, une pièce de Courteline, et le mythe d'Œdipe. Alors, on va commencer par Bouburoche. Donc, voilà une édition de Bouburoche. Alors, c'est une pièce de Courteline qui a été écrite en 1882. Donc, en quelques mots, de quoi il s'agit. Bouburoche est un bourgeois. Il entretient une maîtresse, Adèle. Et un jour, un voisin d'Adèle le met en garde et lui dit que, en fait, elle reçoit régulièrement un jeune homme chez elle. Alors, Bouburoche, il est tout émoustillé, il est inquiet, il se met à guetter la fenêtre d'Adèle. Et un jour, effectivement, il voit une silhouette qui lui semble être celle d'un homme. Du coup, il se rue chez elle. Et juste avant qu'il entre, l'homme a le temps de se cacher dans le placard. Il y a tous les clichés. Et Bouburoche entre, demande des explications. Il y a un homme ici, tu me trompes. Donc au début, Adèle nie. Et donc, je vous passe quelques péripéties. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, Bouburoche se trouve nez à nez avec l'homme au placard. Et donc, à ce moment-là, il dit bah, tu vois bien, il y a bien un homme, donc tu me trompes. Et il lui dit, qui est cet homme? Et Adèle dit, bah, c'est mon cousin, mais je ne peux pas te révéler pourquoi il est là, parce que c'est un secret de famille. Alors Bouburoche, toujours pas content, mais si, tu me trompes. À un moment donné, Adèle lui dit, bah, écoute, ok. Ben, je suis prêt à me parjurer, je vais révéler mon secret parce que sinon tu vas t'inquiéter toute ta vie. Et là, il y a un renversement extraordinaire. C'est Bouburoche, tout d'un coup, il est tout penaud, il dit non, 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 mais excuse-moi, excuse-moi, non, mais je suis un vilain homme et tu es extraordinaire, excuse-moi, excuse-moi. Et il sort de chez Adèle, il se rue chez le voisin, en fait, qu'il a dénoncé. Et de colère, il menace de le frapper pour avoir injustement injurié Adèle. Alors, à partir de là, que nous dit Clément Rosset? Il remarque qu'en fait, Bouburoche, il voit parfaitement qu'Adèle le trompe, mais il décide de passer outre et de penser que non, elle ne le trompe pas. Du coup, Bouburoche, c'est là où le double va arriver, crée un double de la réalité, Adèle ne me trompe pas, qu'il installe à la place du réel, Adèle a un amant. Et il considère que son double, Adèle ne me trompe pas, est plus réel que le réel qui est Adèle a un amant. Le double, comment on pourrait le définir? Une hallucination qui consiste à remplacer une réalité conçue comme inacceptable par une version plus plausible de la réalité, plus acceptable et apparemment plus probable pour la personne. Donc on dit à la fois oui et non au réel. On voit bien ce qui se passe exactement, mais on refuse les conséquences évidentes qui nous déplaisent. Donc pourquoi on fait ça? Parce que on ne supporte pas certains événements de la réalité. Et le double, c'est comme une prothèse du réel. Alors, Clément Rosset nous dit aussi que l'aveuglé, d'une certaine manière, il est irrécupérable. Parce que on ne peut pas en fait lui montrer le réel et lui dire mais non, voilà, c'est ça qui se passe en réel parce qu'il voit parfaitement le réel. Mais il en refuse les conséquences. Alors, dans Le réel et son double, il va développer trois types de doubles. Le premier, c'est l'événement et son double, qui va baser sur le mythe d'Œdipe. Le deuxième, c'est le monde et son double. Donc là, c'est le double métaphysique. Il va parler de Platon, il va parler de Hegel. Et le troisième, c'est l'homme et son double. C'est le double psychologique avec le moi, thème qu'il va reprendre dans ce petit livre qui est superbe, qui s'appelle Loin de moi. Alors là, je vais exposer uniquement le premier type de double, qui est l'événement et son double à travers le mythe d'Œdipe. Œdipe. Donc, ça commence comment Œdipe? Ça commence par un oracle. Et ça va être très important parce qu'il va faire un lien entre très très fin entre oracle et réel par la suite. Donc à la naissance d'Œdipe, bah, ses parents Laïos et Jocaste consultent l'oracle de Delphes, qui leur prédit que si un jour ils ont un fils, bah, ce fils va tuer son père et épouser sa mère. Bon, tout le monde connaît l'histoire. De peur que l'oracle ne s'accomplisse, alors que Laïos et Jocaste ont eu effectivement un fils, bah, ils abandonnent le nouveau-né à sa naissance. Il se trouve qu'il est, bien sûr, il va pas mourir, mais il est sauvé. Il est adopté par Polybe et Mérobe, qui sont le roi et la reine de Corinthe, qui l'élèvent comme leur fils, sans lui révéler en fait qu'il a été trouvé suite à un abandon. Œdipe, devenu adulte, à un moment donné, bah, il rencontre quelqu'un qui lui révèle l'oracle, qui lui dit, bah, tu vas tuer ton père et épouser ta mère. Du coup, Œdipe, qui pense que le roi et la reine de Corinthe sont ses vrais parents, bah, refuse de retourner à Corinthe pour éviter que l'oracle ne s'accomplisse. Et sur la route, il rencontre un vieil homme sur un char. Alors ils se disputent. Ça se passe comme de nos jours entre les automobilistes. C'est une question, c'est un refus de priorité, a priori. Et ils en viennent aux mains et Œdipe tue le vieil homme. Et bien sûr, ce vieil homme, bah, c'est son père, c'est Laïos. Donc la première partie de l'oracle est accomplie. Alors ensuite, il va aller à Thèbes et il va résoudre bah, la fameuse énigme du Sphinx, quel être à quatre pattes le matin, deux le midi et trois le soir. Voilà, donc la réponse est
le cochon, l'homme.
l'homme.
C'est la même chose.
Ah, voilà. Et alors il gagne, c'est comme dans les jeux télévisés, il y a une récompense. Et la récompense, ben, c'est le trône de Thèbes et en même temps la main de la veuve, parce qu'elle est veuve, bien sûr, parce qu'il a tué son mari, la veuve Jocaste, donc sa mère. Et du coup, selon le second volet de l'oracle est accompli. Voilà. Alors. Magnifique interprétation de Clément Rosset de ce mythe. Il va délaisser en fait les interprétations traditionnelles qui sont ben, sur le on ne peut pas échapper à son destin, on est déterminé, le manque de liberté, où est le libre arbitre, la fatalité. Donc tout ça en fait il le met de côté, c'est pas ce qui va l'intéresser dans le mythe d'Œdipe. Simplement son accroche. C'est de remarquer que, en fait, ce qui nous surprend dans la réalisation de l'oracle, c'est que précisément il se réalise. C'est-à-dire, c'est que ce qui devait arriver arrive. Et du coup, si on modifie un peu la phrase et les temps, que ce qui arrive arrive. C'est ça, en fait, qui nous surprend. Donc, ce qui arrive arrive. Hein. On va revenir sur cette phrase-là. Donc la surprise vient du fait que l'événement attendu vienne coïncider avec lui-même. Et le corollaire de cette surprise, c'est qu'on considère que la manière dont l'oracle s'est réalisé n'est pas satisfaisante, que ça aurait dû se passer autrement, qu'il y a eu une espèce de tricherie en fait du destin qui a fait que l'oracle s'est réalisé. Mais en fait, si on réfléchit à comment ça s'est passé et comment ça aurait pu se passer, ben on ne trouve pas une histoire meilleure ouais, que celle du mythe. Donc on se dit ça aurait dû se passer autrement, mais on n'est pas capable de dire précisément comment ça aurait dû se passer. On crée une vague imaginaire, une vague histoire imaginaire qui serait plus vraie que l'histoire du mythe. Et là, on a la même structure du double qu'on avait avec Bouburoche. C'est-à-dire qu'il y a le mythe tel qu'il s'est réalisé avec sa conclusion, ça c'est le réel. Et puis il y a le fait que ben, on est surpris, on l'accepte pas particulièrement et on s'imagine un double en fait qui serait une autre histoire, mais sans être capable de la dire précisément. Et à partir de là, ben, nous, Clément Rosset nous propose le réel comme de nature oraculaire. C'est-à-dire notre manière d'appréhender le mythe, c'est la même chose que notre manière d'appréhender le réel. Alors, le réel, dans le réel, qu'est-ce qui se passe ? Ben, tout ce qui arrive une fois arrivé, en fait, se présente à nous avec la même nécessité et la même force que la réalisation implacable d'un oracle. C'est-à-dire, dans le réel, une fois que quelque chose est arrivé, eh ben voilà, c'est fait. Ce qui arrive, arrive. Et avec la même force, en fait, la même évidence que si ça avait été annoncé par l'oracle. Et lorsque le réel advient, lorsqu'un événement advient, du coup, il va... ça va être un déni par son existence même de toute autre forme de réalité au moment où il arrive. Donc le réel, à chaque fois, en fait, il élimine toutes les autres possibilités et tous les autres fantasmes qu'on pourrait avoir. Alors on peut se demander, mais que devient le destin, en fait, dans le réel ? En fait, dans le réel, il n'y a pas de vrai oracle et on n'est pas obligé de croire à la fatalité de ce qui nous arrive. En fait, il nous propose une transcription du destin, du mythe, dans le réel, en disant que dans le réel, en fait, le destin, c'est quoi ? Ben, c'est que ce qui arrive est parfaitement imprévisible et radicalement surprenant. Donc c'est ça qui est très fort, en fait, parce que il nous donne une définition du destin dans le réel, en fait, qui est l'inverse de la définition du destin dans le mythe, mais qui s'applique avec la même force à ce qui arrive. Alors, ce qui est parfaitement imprévisible et radicalement surprenant, on peut prendre un exemple pour bien comprendre d'un jeu. Imaginez que vous ayez 10 000 jetons numérotés de 1 jusqu'à 10 000 et que vous en tiriez un au hasard, par exemple le numéro 938. Ben, c'est complètement, une fois que vous avez tiré ça, ben c'est implacable, voilà, c'est arrivé. C'est arrivé comme si ça avait été prévu depuis la nuit des temps. Et en même temps, c'est complètement imprévisible. Ça, avec les lois du hasard, on ne peut pas prédire justement le numéro qu'on a tiré. Et du même coup, en tirant le numéro 938, ben on élimine toutes les autres possibilités, c'est-à-dire les 9999 autres possibilités. Donc il y a cette force qui existe du réel. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il arrive en fait à nous faire comprendre, à nous faire saisir le côté implacable et inévitable du réel et le fait que en fait on a beau créer des doubles parce qu'il nous plaît pas, mais on n'y peut rien, il arrive tel qu'il arrive, sans avoir besoin de convoquer en fait des questions sur le libre arbitre, sur le déterminisme, sur tout ça. Donc en fait, il nous fait accepter le réel tel qu'il est, parce que c'est le réel, indépendamment de toute la philosophie ou la pensée qu'on peut avoir sur la liberté ou pas la liberté des personnes. Alors, pour terminer, en fait, tout ça, ça débouche sur une éthique qui est de dire que ce réel, en fait, qui arrive, auquel on ne peut rien une fois qu'il est arrivé, c'est un réel idiot. Il cite Macbeth, Shakespeare étant une de ses grandes références aussi. « La vie est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, qui ne signifie rien. » Donc le réel est idiot et il nous rappelle en fait que idiot, avant de signifier imbécile, signifiait simple, particulier, unique de son espèce. Et voilà. Et donc pour lui en fait, ça, alors ce qui va développer notamment dans la force majeure, c'est la possibilité de la joie dans ce réel idiot. ne plus prendre ses désirs pour la réalité, mais prendre la réalité comme désir. Et c'est là où il rejoint Spinoza et l'éthique de Spinoza. Voilà, alors j'en terminerai simplement en vous disant que si le réel et son double vous a passionné, ce n'est pas très long comme livre, mais si vous voulez encore plus en savoir, il y a ce livre « L'école du réel » dans lequel, en fait, tous ces textes qui concernent le réel ont été recueillis. Voilà, je vous remercie. Je rappuie dessus.